voilà, merci d'être venu, Anthony. Bienvenue parmi nous. On est à votre écoute.
Merci. On m'entend ? Ouais. Merci Marc. Du coup, ce que je vais dire va être complémentaire à ce qu'a raconté Eric. Dans la semaine, vous allez avoir beaucoup d'artistes, de designers qui vont parler, j'imagine, beaucoup de logiciels libres dans la création, donc je ne voulais pas que ce soit redondant. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon point de vue actuel, qui n'est pas tellement celui d'un designer, mais plutôt celui d'un chercheur en design, et plus largement, qu'est-ce que les chercheurs peuvent faire avec du libre, et surtout, ce sera quand même malheureusement la majeure partie de la conférence, quels sont les problèmes qui se posent à eux. Donc ça va recouper ce qu'a dit Eric en petite partie, mais plutôt du point de vue du coup universitaire. Donc d'où le titre « Recherche et culture libre ». Pourquoi c'est important la culture libre dans la recherche, quels sont les problèmes qui se posent et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il y aura une dernière partie un peu plus optimiste avec des propositions. Quelques éléments biographiques, alors bon, c'est pas pour raconter ma vie, mais ça va revenir à la fin, donc c'est quand même important d'en parler. J'ai soutenu une thèse en 2014 à Paris 1 qui traitait des rapports entre le design et les pratiques de programmation numérique et qui a été mise en ligne, enfin que j'ai mise en ligne plutôt, sous la forme d'un site web afin de la rendre consultable par le plus de gens possible et que vous n'ayez pas besoin d'aller dans une bibliothèque universitaire aux horaires restreints pour pouvoir la lire. J'ai cofondé une revue qui s'appelle Back Office. Merci Marc, tu étais d'ailleurs l'origine du projet aussi en partie. Donc le premier numéro est sorti en 2017 et donc cette revue, soutenue d'ailleurs par Lessa Damien, traite des relations entre le design graphique et les pratiques numériques. Et on verra aussi que les licences libres ont une place dans cette revue. Et dernier élément biographique, cet essai paru en 2017, Design et MIT numérique, paru donc aux éditions B42. Oui, première partie, aux origines du capitalisme. Ça me semble important parce qu'il me semble qu'une semaine qui vise à traiter de la culture libre ne peut pas se passer d'une réflexion ou d'un ancrage sur ce que c'est que le capitalisme. Donc une dimension politique qui est importante dans le libre, qu'on tend parfois à oublier, notamment quand on parle d'open source. Et je reviendrai plus tard sur cette distinction. Donc je prends les racines, Karl Marx, donc son ouvrage « Le Capital ». Ou du coup, pour le Karl Marx, le capital donc né en Europe, alors bon, les compliqué hein, temporellement, mais voilà, il y a quelques fourchettes, 16e, 19e siècle. Donc le capitalisme plutôt, se caractérise, selon Karl Marx, par ses notions donc, de propriété privée des moyens de production. Donc les travailleurs n'ont plus la possession de leurs outils de travail, l'exploitation évidemment de cette force de travail, la mise en concurrence de ces travailleurs et donc la quête organisée, rationnelle, toujours plus poussée du profit. Donc voilà, donc ça c'était dans les économies, ce que dit Marx. Hein. Avant le capital, du coup, on avait des objets ou des biens pour subvenir à ses besoins immédiats, ce qui n'est évidemment plus tout le cas après. Donc le but est de faire de l'argent, non pas d'acheter des marchandises pour les besoins que ça va résoudre, mais pour les revendre à profit. Et donc, ce qui permet de faire des bénéfices, c'est d'exploiter une capacité de travail, donc de se rémunérer sur la plus-value entre ce que font les travailleurs et ce qu'on va pouvoir revendre grâce à leur capacité de travail, et donc de se rémunérer sur cette marge qui, du coup, n'apporte pas de valeur ajoutée en tant que telle dans la production des biens. Je simplifie, hein, vous me pardonnerez. Donc voilà, citation peut-être un peu plus précise que ce que je viens de dire, que ce qui intéresse les capitalistes, c'est donc de faire circuler la monnaie le plus vite possible, et que donc ce n'est pas la valeur d'usage qui compte, mais bien cette valeur économique, cette valeur financière. C'est ce que montre ce petit schéma, du coup, cette citation aussi que je trouve peut-être encore plus claire. L'argent qui engendre l'argent, donc MAM, ça veut dire marchandise, argent, marchandise, donc ça c'est le système classique, on achète une marchandise pour subvenir à un besoin. Le capital renverse ce schéma-là et va de l'argent à la marchandise à l'argent. Et donc le processus du capital consiste à faire revenir le plus vite possible, d'accélérer ce cycle qui boucle la monnaie sur elle-même et dans chaque cycle de se faire plus d'argent. Donc ça c'est déjà vu, hein, 1867, Karl Marx. Donc, pour accélérer cette boucle, là encore, c'était encore assez rudimentaire chez Karl Marx, hein, ça passait par des marchandises tangibles, si je puis dire. Notamment, il y a beaucoup d'exemples dans le livre, des chaises, etc. C'est assez riche en exemples. Là, on fait un petit bond dans le temps, on va plutôt être du coup année 1980 environ, voire année 2000, avec ce qu'on pourrait appeler du capitalisme spéculatif ou néolibéralisme, après bon, il y a plusieurs expressions, qui se caractérise en partie par la numérisation de la finance, donc depuis notamment la fin des accords de Bretton Woods en 1971, voulu par Richard Nixon, où le dollar n'est plus indexé sur l'or, on assiste à une explosion considérable d'émissions de devises qui ne reposent plus sur rien de tangible, le tout à l'échelle mondiale. Donc on arrive vraiment dans une déconnexion de plus en plus grande entre des activités humaines et des valeurs qu'on peut y associer. Voilà, c'était bien mis en scène dans ce long métrage, vous l'avez sans doute vu, Le Loup de Wall Street de Scorsese. En 2013, donc une spéculation complètement débridée, bon, il y a encore eu pire depuis, où on voit bien la déconnexion complète entre ces agents boursiers et les personnes qui sont encore du coup au niveau de la force de travail. Voilà, ça peut être encore pire, c'est ce que montre, c'est un petit peu la suite d'ailleurs du film de Scorsese, hein, ce livre de Alexandre Lomonier, Chez une sensible, donc qui s'appelle 6-5, qui décrit du coup l'histoire assez récente, parce que c'était peut-être une dizaine d'années environ, je ne sais pas, de ce qui s'appelle plutôt le trading à haute fréquence, donc cette capacité d'algorithme à faire des opérations qui échappent complètement au temps humain à la milliseconde et de spéculer sur ces micro-boucles temporelles à la hausse ou à la baisse avec tous les effets pervers que ça peut engendrer, parce que les algorithmes étant s'influençant les uns les autres, on peut avoir des effets de chaîne complètement désastreux, comme les crises financières qui se sont déroulées au début des années 2000. Donc là c'est complètement déconnecté des humains. Encore chez Scorsese, il y avait encore des agents de change dans les places boursières. Maintenant, c'est complètement vidé et ça se passe au niveau des programmes informatiques. Alors, pour vous montrer un petit peu la situation actuelle et l'absurdité dans laquelle on est, on dit qu'on est endetté, qu'il faut rembourser la dette. Donc là, c'est un petit schéma que je trouve intéressant de comparatif de différents de valeurs financières, donc tout l'argent dans le monde, les métaux plutôt, les crypto-monnaies, les grandes compagnies, donc ça, tout ça est à l'échelle, hein, Apple, Facebook, etc., les 50 personnes les plus riches, l'État de Californie, la réserve fédérale américaine, l'or, les stock markets, donc les marchés boursiers, la monnaie disponible dans le monde, etc. Et là, vous avez la dette. Vous voyez qu'en fait, la dette n'est juste pas remboursable, même si on additionne tout le reste. Du coup, ça, c'est déjà un petit problème. Et ça va être encore pire. Donc là, on prend l'immobilier. Et après, voilà, là, ça devient n'importe quoi. Sur les produits dérivés, donc c'est tout... c'est compliqué à expliquer, mais par exemple, alors ça dépend des réglementations des pays, mais par exemple en Chine, vous pouvez jouer 10 si vous avez 1. Donc si vous gagnez, tant mieux. Par contre, si vous perdez, bon, bah là, ça devient un peu catastrophique, parce que vous avez perdu, non pas 1, mais voilà, beaucoup plus. Et donc tout ça s'enchaînant, donc on arrive à ces marchés des produits dérivés, et là, regardez la longueur, c'est complètement hallucinant. Donc là, je ne sais même plus les unités, mais c'est des quadrillions, je ne sais pas quoi. Bon, c'est un peu dur à traduire, mais ça vous montre bien l'absurdité de l'état de la finance dans lequel on est plongé actuellement. Donc on en arrive à ça. Le capitalisme spéculatif débouche du coup sur une économie de la dette. C'est-à-dire que ceux qui sont riches ne sont pas ceux qui ont de l'argent, parce qu'on voit bien que la quantité est quand même limitée. Mais sur si vous tenez des dettes, en fait vous êtes riche. Vous avez un contrôle social sur les personnes qui sont endettées auprès de vous. Donc c'est ce que montre le sociologue Maurizio Lazzarato dans cet essai. La fabrique de l'homme endetté, essai sur la condition néolibérale, développe ce que j'ai montré là rapidement, c'est que cette dette n'est jamais remboursable, donc ça n'a pas de sens d'imposer des politiques réglementaires basées là-dessus. C'est juste une nouvelle façon de contrôler les populations, de façon bien plus violente évidemment que en fait, ce qui se passait avant. Alors, autre strate, donc ça c'était plutôt années 1980-2000, hein, grosso modo, les subprimes, la crise date de 2007, je crois. Donc, parallèlement, c'est des strates, hein, ça ne veut pas dire que l'exploitation des travailleurs a cessé, hein, c'est juste des choses qui se rajoutent. Une autre strate intéressante qui va nous emmener cette fois peut-être plus proche des enjeux de recherche que je vais développer, c'est cette expression de capitalisme cognitif, qui se rajoute au capitalisme, du coup, parce que j'ai marqué industriel, financier, donc ce serait la troisième strate du capitalisme. Donc, qui consiste à non plus capter les moyens de production, pas non plus dans la concentration de la finance, mais cette fois dans la captation des capacités psychiques de l'esprit, donc des connaissances, entre autres. Ça, c'est plutôt années 2000. Donc ça a été développé notamment par Yann Moulier-Boutan, économiste sociologue, qui nous dit ça. Du coup, voilà, le capitalisme cognitif se caractérise non pas sur les connaissances et sur leurs produits, mais sur du coup, la prospection, la valorisation et l'exploitation, voilà, ces mots-là sont intéressants, des éléments des connaissances qui résistent à la codification numérique, l'exploitation de la force inventive du travail vivant. Donc voilà, il appelle ça du coup une nouvelle transformation du capitalisme, qui du coup cherche toujours à faire plus de profit. Hein. Évidemment, la terre est finie, donc au bout d'un moment, il n'y a plus de métaux, il n'y a plus rien. Par contre, bon, sur la capacité psychique, là, il y a encore un terrain vierge à exploiter. Donc ça repose sur quoi ? Bah, l'opposition entre la valeur travail de Marx et la valeur savoir, peut-être, qui serait dans ce capitalisme cognitif. La différence entre une activité libre, donc qui serait soustraite au marché, et un travail, tout va devenir travail, donc on va penser, on va travailler. Tout ce qui touche à l'expression bien immatériel, donc la connaissance comme bien immatériel, comme bien, ça veut dire qu'on peut du coup y adresser des valeurs, et comme propriété privée exploitée. Ça, c'est l'actualité aussi avec les débats aujourd'hui sur la revente des données privées. On voit bien que des personnes se posent cette question, savoir si des données ou des informations ou des idées peuvent devenir des biens exploités. Donc voilà, il y a cet article aussi, ça atteint aussi le monde de l'art, bon, je ne vais pas développer, mais c'est très intéressant de voir comment le capitalisme se saisit depuis quand même pas mal d'années déjà du monde de l'art, notamment avec toutes les fondations d'entreprises qui exploitent tout ça. Alors j'en arrive cette fois quand même au sujet de départ, mais ces contextes étaient nécessaires. Comment tout ça se transforme dans la recherche et quelles sont les conséquences concrètes de cette marchandisation du savoir dans le champ universitaire. Oui, j'entends recherche aujourd'hui, hein, depuis mon point de vue, au sens universitaire, le terme étant évidemment bien plus large. Alors, quelques contextes, éléments de contexte. Numérisation du monde, on l'a vu, développant réseau Internet et web depuis années 70 ou 90. La financiarisation de l'économie, on l'a vu aussi. La fin du travail, peut-être. Enfin, perte d'influence sur les matériels, fin de l'emploi, donc tout ce qui est contrats précaires. Pourquoi pas l'idée aussi que l'individu devrait auto-initier son activité économique, autrement dit la start-up nation. On est dans cette logique-là. Le développement du secteur tertiaire, les services versus les industries lourdes. Et sur un plan démographique, la massification des effectifs dans l'enseignement supérieur, qui a été de pair avec une réduction des effectifs au niveau du personnel enseignant. Donc, tout ça va concourir à cette marchandisation du savoir. Au niveau des réformes structurelles de quelques dates clés, en Europe, processus de Bologne en 1999 et Lisbonne qui font qu'on est passé au système LMD au niveau universitaire, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, ça paraît évident. Licence, master, doctorat. Donc un lissage des équivalents de formation à l'échelle européenne, ce qui n'a pas eu des conséquences positives. Et du coup, au niveau des, peut-être plutôt au contexte français, les lois LRU et instance AERS. Donc là, j'y reviendrai après, mais c'est l'autonomie des universités, grosso modo, la loi LRU, la loi Pécresse, sous le gouvernement Sarkozy. Donc on va voir après quelles conséquences ça a eu concrètement dans les universités. Et on assiste du coup, avec tous les éléments de contexte que je viens de dire, à cet état de fait, à un mélange des genres entre le vocabulaire entrepreneurial ou managérial et le monde de la recherche. Alors je ne sais pas si ça atteint les écoles d'art, Barbara pourra nous éclairer, mais en tout cas à la fac, c'est malheureusement bien le cas. Donc c'est ce type d'expression, j'aurais pu mettre des guillemets partout, mais bon. Donc management par projet, mise en concurrence des chercheurs, chercheuses et les universités entre elles. Bah oui, dès lors que vous créez une autonomie, il faut bien attirer des gens. Donc les universités deviennent des marques et sont en concurrence sur un échiquier mondial avec des classements comme des courses de chevaux. Et des systèmes d'évaluation où du coup on va voilà, chercher comment évaluer la recherche. Cette expression a du sens. Et noter, alors pas tant au niveau des individus, mais plutôt au niveau des équipes de recherche. Et ça, j'ai des exemples à vous montrer. Donc voilà, tout ça se confond, le vocabulaire des start-up, de l'entreprise et de la recherche, tout ça se mélange. Alors avec mes collègues à Toulouse, le projet a été retiré, mais bon, il va peut-être revenir, un projet de fusion des universités à l'échelle toulousaine, donc ça s'appelle IDEX, d'autres universités comme à Strasbourg ou Lyon ont déjà mis ça en place, et donc on a pris ce projet de réforme et on a décortiqué tout le vocabulaire qui vient avec pour en faire un lexique critique. Alors je ne vais pas ces composants police VTF aussi, une petite transition par rapport à la conf d'après. On voit ce genre de vocabulaire: accélérer, accroître, agile, ambition, amplifier, attractivité, autonomie, avenir, axe stratégique, benchmark, bibliométrie, business, etc. indicateurs de performance, gouvernance, innovation, label, management. Donc on voit que tous ces mots-là sont clairement passés dans le champ de la recherche, donné que là, ils sont au cœur de ce projet de loi. Après, vous avez des notices, nombre d'occurrences, accéléré 4 fois. Je crois que le plus grand, c'était international. International revenait 81 fois dans ce projet de réforme. Et donc, alors, ce projet n'est pas passé, notamment parce qu'on a résisté au niveau de l'université des sciences humaines, parce que ça revenait, grosso modo, à se faire engloutir par les sciences dures, qui, les axes stratégiques étant définis par des entreprises comme Airbus, qui devaient siéger au conseil d'administration. Donc, évaluation négative, voilà, tout en anglais, donc c'est aussi assez intéressant de voir que cette langue aussi managériale s'exprime par l'anglais, alors que c'est un cas typiquement français qu'il s'agissait de regarder. Bref, voilà, on arrive à ça. Donc le management par projet de la recherche, donc c'est plus des lignes de recherche qui vont être développées en interne et financées au niveau des universités, mais il y a une concurrence des chercheurs et des équipes de recherche au niveau national et international. Donc comment ça se concrétise? Il y a cette instance qui est déjà vieille, hein, l'ANR, Agence Nationale de la Recherche, qui date de 2005. Voilà, ça c'est malheureusement une vraie capture d'écran. Voilà, donc une petite définition que j'ai trouvée sur le site. L'ANR finance la recherche sur projet sur un mode de sélection compétitive qui respecte les standards internationaux. Elle s'attache à favoriser la créativité, le décloisonnement, les émergences, etc. Voilà, donc ça c'est 2005. Et ce qui fait que bah, aujourd'hui, si vous êtes chercheur et vous voulez faire des projets, vous n'avez garde choix que de rentrer dans ce système-là. Malheureusement, les alternatives sont de plus en plus compliquées à trouver. Comment ça se présente? Bon, bah, là c'est un projet sur lequel j'ai travaillé en 2015 avec une équipe de chercheurs, donc c'est 18 pages, mais c'est une version de travail, hein. Le document final était plus long, en plus on vous le demande en deux langues. Donc voilà, donc c'est des semaines et des semaines de travail. Le projet n'a pas été retenu, comme 93% des dossiers déposés à l'ANR, ce chiffre étant en déclin chaque année. Donc il y a 93% de chances, qu'il y a quand même beaucoup d'aléatoires là-dedans, pour que tout ça ne serve à rien. Donc voilà, on paye directement des personnes par de l'argent public pour un travail inutile. Au niveau des systèmes d'évaluation, voilà, c'est cette instance qui s'appelle l'HCERS, alors bon, ça a été renommé, mais je passe, qui évalue du coup les équipes, tant au niveau pédagogique qu'au niveau recherche, qu'on parle bien d'enseignement-recherche, au niveau universitaire depuis 2006. Donc tous les 4 ans, c'est la pression, il faut tout rassembler, faire des dossiers, tout ça prend énormément de temps, du temps qui évidemment n'est consacré ni à la pédagogie, ni à la recherche. On passe la plupart de nos temps à justifier ce qu'on fait. Voilà, bon, le constat, vous l'avez compris. Donc la marchandisation capitaliste atteint largement le champ des savoirs et de la recherche. C'est déjà acquis. Quelques réactions parodiques, on verra après d'autres trucs. L'ANES, donc ça, je trouve ça très drôle, Agence Nationale de l'Excellence Scientifique. Peut-être vous donner une citation. Ouais, vous irez voir. Enfin, c'est assez drôle, c'est un peu des blagues de chercheurs. Rogue ESR, donc... voilà, enseignement supérieur de la recherche, un compte qui va dénoncer tout ça également. Et cela, c'est peut-être le meilleur pour la fin. Real Univ France. Alors bon, j'ai des collègues qui pensaient que c'est un vrai truc, ça que ça pourrait. Ne cherchez plus, innover en toute agilité, l'université intelligente et innovante. Comité stratégique, innovation booster, technopole, tank force multiple, etc. Bon, on en rigolerait si c'était pas déjà le cas en fait. Alors, on va aller encore un peu plus loin dans le mal. La privatisation de l'enseignement en recherche, donc là, c'est au niveau de la pédagogie, article récent du Monde. Les formations numériques dispensées par Google à l'université font débat. Ben oui, évidemment. Donc ça, c'était à Nantes, il n'y a pas si longtemps. Ça a été dénoncé de façon assez brillante par ce chercheur, Olivier Hertzscheid. Bon, je vous laisse lire le titre. Voilà, qui du coup dénonce ça. Alors, l'université n'a pas payé Google concrètement, mais il y a quand même une collision qui est assez inquiétante à cet endroit-là. Il y a d'autres cas avec Facebook aussi, mais je vous les passe. Maintenant, on arrive dans la publication. On était sur l'enseignement. Privatisation des publications de recherche. Donc ça, Eric l'a abordé un petit peu. Je vous montre un petit peu les grands groupes là, à l'échelle mondiale qui dominent les publications de recherche. Donc Elsevier et Springer, donc c'est les deux plus gros. Donc voilà, ils disent, notre business est publié, hein, c'est pas de faire progresser les savoirs. Au moins, c'est assez clair dès la première phrase. Et voilà, donc ce problème qui se pose, là c'est un chercheur qui nous dit, bon bah ces publishers, c'est même pas les éditeurs, hein, publishers, académiques, n'apportent rien comme valeur ajoutée dans le processus d'édition. Personne n'est payé. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que les articles ou textes sont proposés par les chercheurs, ils sont évalués et relus par des chercheurs, et le boulot de publisher consiste à peu près juste à les mettre en ligne dans un CMS, j'exagère à peine, encore qu'on le fait. Et là-dessus, évidemment, personne n'est payé, sauf l'éditeur qui lui va se rémunérer, notamment par les abonnements qui coûtent très très cher de la part des bibliothèques universitaires. Voilà, donc ce qui produit de nombreuses controverses, il y a cet article qui explique ça bien, mais je vais le passer. Donc on en arrive à cet état de fait, donc une folie du copyright qui bloque complètement la transmission des savoirs. Donc on dit souvent qu'on est chercheur, on est soumis à cause de l'évaluation, hein, tout ça, et s'enchaîne. Publish or perish, si vous ne publiez pas, vous ne progresserez pas dans votre carrière, vous n'aurez pas de poste, donc on est poussé à cette injonction en tant que chercheur à la publication. Et donc là, je vais vous montrer le cas d'un chercheur en psychologie, Alexandre Saint-Jevin. Donc, il m'a filé des documents, donc c'est un cas très concret. Donc lui, il est chercheur en psychologie, il est docteur. Et donc, pour avoir un poste à l'université en psychologie, il doit publier dans des revues, et pas n'importe lesquelles, des listes qui sont établies au niveau national, au niveau du CNU 18, donc c'est une instance universitaire, en l'occurrence, de psychologie. Donc recommandation pour... Alors c'est juste pour pouvoir postuler, hein, c'est sympa pour avoir un poste, mais bon, étape par étape. Donc il doit publier au moins 2 articles dans des revues à comité de lecture indexées dans des bases de données. Le problème, c'est qu'en psychologie, toutes les revues de ces bases de données sont des revues payantes, à accès privé. Donc il n'y a pas du tout d'open access à cet endroit-là. On reviendra après sur ce que c'est que l'open access. Donc comment ça se passe? Alors il a réussi à publier non sans mal chez Elsevier, et là il a reçu ce mail assez cocasse qui l'autorise, ils lui font le plaisir, il lui donne un droit de partage d'un article, alors pendant un temps limité, parce qu'il ne faut quand même pas décoller. Et il peut l'envoyer à quelques chercheurs avec une URL pendant 50 jours. Un article qu'il a lui-même écrit pour lequel il n'a pas été rémunéré, je précise. Donc il ne peut pas, au bout de 50 jours, il n'a même plus accès à son propre article, qui a pu être modifié légèrement après publication au niveau de l'éditeur. Donc il ne peut plus accéder à son article, sauf s'il paye. D'ailleurs, le bon de commande de ces articles, son article vaut, je ne sais pas pourquoi dire le total est inférieur, mais bon. 27 ou 30 euros, on nous propose en plus, comme sur Amazon, des articles liés. Si vous avez aimé le jambon, vous aimez aussi ça. Donc là, on voit que c'est complètement privé. Si vous ne payez pas 30 euros, vous n'y avez pas accès. Évidemment, lui ne touche rien sur les 30 euros. S'il veut que l'article soit libéré, il m'a envoyé une capture d'écran de ce mail. C'est assez intéressant. Ça, c'est un autre éditeur chez ACM. Il peut payer une espèce de forfait pour que son article, après publication, passe sous licence libre, Creative Commons. Et les tarifs sont assez hallucinants. Celui que j'ai montré, c'est 1700 euros pour libérer l'article et 2150 euros. Ça vous donne une fourchette de prix pour que l'article passe en licence libre. Sachant qu'il n'a pas été payé dans l'histoire. Donc il n'a pas du tout le choix de la licence sur sa publication. Autre problème, la citation des documents audiovisuels. Donc ça, c'est un vrai problème, en tout cas en France. Donc là, une belle capture d'écran de la revue de l'art sur percé.fr où on a charcuté toutes les images. Ils ne sont pas embêtés, ils ont tout enlevé, pour du coup éviter d'avoir des problèmes au niveau de la reproduction numérique, ce qui pour une revue d'histoire de l'art pose quand même un certain nombre de problèmes quand vous n'avez pas les tableaux ou les œuvres en vis-à-vis au niveau scientifique. Voilà, ça a été dénoncé par des chercheurs comme André Gunter qui se sont posé la question du droit aux images à l'heure de la publication électronique, parce que si vous demandez les droits, ils peuvent vous être refusés. André Gunter, lui, c'est un chercheur en photographie, il a fait un article assez critique sur la photographe Anne Goldin, il n'a pas eu le droit de reproduire les images en vis-à-vis de son article, ce qui pose un vrai problème d'intégrité scientifique. Ce plaidoyer, mais qui n'a pas encore été suivi des faits, de Lionel Morel, sur ce blog que je vous recommande, un Silex. Pourquoi nous avons besoin d'un droit de citation audiovisuelle, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et comme Eric le disait juste avant, c'est aux États-Unis, il y a un fair use, donc une espèce de zone grise de tolérance pour des usages type recherche, même si la loi n'y autorise pas explicitement, dans les faits, on ne risque pas grand-chose. En France, ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas possible de citer l'image comme on cite un bout de texte. Voilà, et sur, toujours sur cette histoire de copyright madness, donc cette série de billets sur le blog Numérama, qui dénonce des cas de droits d'auteur vraiment délirants. Donc là, Miley Cyrus qui aurait fredonné, je ne sais pas quoi, bon bref. Donc c'est intéressant de suivre chaque semaine des cas complètement délirants de copyright. Alors comment on peut résister à ça? Plusieurs choses. On peut, c'est ce que disait Eric, on peut citer du côté des pirates, au sens noble du terme. Peut-être le plus connu d'entre eux au niveau des articles de recherche étant cette personne, Aaron Swartz, qui avait libéré énormément d'articles académiques, qui a été condamné pour ça et qui en partie à cause de ça s'est suicidé. Il a fait d'autres choses dans sa vie, mais voilà, en tout cas... Il a milité énormément pour ça, il a contribué aussi énormément au développement de Wikipédia. Donc ses écrits ont été traduits récemment en français, et ils sont d'ailleurs placés sous licence libre. où je vous conseille la lecture de cet ouvrage, si vous intéressez à la culture du livre. Eric, on a parlé aussi, Alexandra Elbakian, qui a donc fait ce portail C-Up, je crois que ça les enregistre, je crois que ça agrège petit à petit tous les articles dans une grande base de données, puis ça les ressort si on les interroge.
Oui, mais quand il n'a pas encore dans la base de données, c'est là qu'il va.
Ouais, c'est ça.
Et après, ça enregistre.
Pour garder une copie, ouais. Donc là, vous pouvez contourner tous les paywalls en allant sur ce site-là. Bon, alors ça, c'est évidemment pas très bien passé pour elle. Elle a été attaquée par les éditeurs et condamnée. Alors, elle n'a pas payé, parce que je crois qu'on ne peut pas juste. Une amende de 15 millions de dollars par les éditeurs américains pour ça. Juste pour avoir voulu libérer le savoir. En France, ça évolue un petit peu, en tout cas au niveau du texte. On a cette loi pour une république numérique qui date de 2016, qui autorise les chercheurs à donner accès à la lecture dans un délai de 6 mois pour des publications en sciences humaines ou 12 mois pour les sciences dites dures ou sciences exactes. Je ne sais pas trop où ils aillent là-dedans, mais bon, en tout cas, maximum 12 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sous licence libre. Vous pouvez juste permettre à d'autres personnes de le lire, ce qui est déjà une première avancée. Voilà, conclusion. Je ne sais pas combien de temps il reste.
Ça va.
Ok, super. Quelques propositions, du coup, je vais pouvoir les développer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire de positif là-dedans, après cet état des lieux assez catastrophique? Déjà, en tant que chercheur, ou étudiant, ou artiste, ou designer, être cohérent entre ses choix politiques et ses actes. Donc là, cette citation que je trouve intéressante, tous les chercheurs universitaires qui, du coup, se plaignent de ça et qui écrivent dans ce genre de revue, voilà, ou qui parlent du livre et qui l'article qui parle du livre va être vendu 150 ou 300 dollars. Donc voilà, il y a une contradiction totale entre le modèle économique de l'article et la façon ce dont il traite. C'est déjà une première réponse. À voir, parce que du coup, comme on l'a vu, au niveau des évaluations, on est parfois contraint à publier dans ce genre de choses, mais au moins peut-être on peut parler d'autres thèmes que de lecture libre, quand on fait payer les gens pour ça. Distinction aussi, en retard la conférence, Eric, tu m'as déjà parlé, la distinction entre le libre, l'open source et l'open access, donc ça je vais quand même en dire quelques mots. Le libre étant relié à une philosophie, un état d'esprit qui vise à libérer, à être libre ou à rendre les gens libres. Contrairement à l'open source, donc le libre, j'ai une slide juste après qui vient de Richard Stallman, enfin pas que, mais comme une figure clé du mouvement libre, donc plutôt années 80. L'open source est vu plus tard, sous l'impulsion entre autres de Eric Raymond. Donc là c'est plutôt lié à des méthodologies de production qui consistent à travailler à plusieurs sur des mêmes sources et à gagner en productivité par cette... Cette agrégation de compétences. Donc même si le code va être lisible par tout le monde, on est davantage dans une logique économique que dans une logique éthique. Donc c'est la différence entre les deux. Et l'open access, alors c'est un terme un peu plus flou, donc là qui est plus lié à la recherche plutôt qu'au champ du développement informatique. Mais l'open access, l'accès ouvert, mais ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme un petit peu flou. Si on peut lire quelque chose en ligne gratuitement, ça ne veut pas dire que c'est libre. Vous voyez, il y a une différence. Vous pouvez lire quelque chose, mais vous ne pouvez rien en faire à part le lire. Déjà bien, vous ne pouvez pas le reprendre, l'enrichir, etc., ou modifier et redistribuer ce texte-là. Donc méfions-nous un petit peu de ce terme open access et préférons peut-être celui de livre, qui me semble est plus juste. Pour y voir un peu plus clair, donc c'est un texte vraiment historique, je ne sais pas si on a parlé Eric avant que j'arrive, mais les quatre libertés du logiciel libre énoncées par Richard Stallman en 1985, donc qui a été entre autres à l'origine de Linux. La liberté d'utiliser le logiciel pour quelque usage que ce soit, donc on pourrait remplacer logiciel par article scientifique, ça marcherait aussi. Étudier son fonctionnement et l'adapter à ses propres besoins, la liberté de le redistribuer à tout le monde, et surtout, peut-être c'est la plus importante me semble-t-il, d'améliorer le programme et de publier ses améliorations. Donc l'open access, on serait peut-être juste sur la première liberté, parce qu'on n'aurait pas forcément les sources de l'article scientifique. S'il y a des jeux de données, ils ne seront pas forcément publiés avec. On ne pourra pas le redistribuer et on pourra encore moins l'améliorer. Donc l'open access, on reste vraiment à la première liberté de Stallman. Proposition du coup, donc voilà, plutôt privilégier du coup la culture libre et cette philosophie, en tout cas cette éthique. Autre proposition, très, très concrète pour vous, de favoriser la citation et la réutilisation des productions, de ce qu'on fait. Comment ça se présente? Alors Eric en a parlé aussi juste avant, donc on a quand même... Aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup simplifié, des outils concrets à sa disposition. Donc notamment ces licences Creative Commons, ça je vous ai mis le tableau des licences, donc qui permettent une granularité assez intéressante entre redistribution commerciale permise ou pas, donc on peut choisir vraiment de façon modulaire ce qu'on souhaite. Là, vous avez ce genre de tableau, vous aurez les slides après, hein, vous aurez le lien pour les reconsulter, de choisir ce qu'on veut. Donc, c'est hyper important pour ces productions de se demander quelle licence on veut et surtout de l'indiquer. J'y reviendrai après. Autre licence, bon, intéressante aussi, la licence Art Libre, qui est maintenant compatible d'ailleurs avec les Creative Commons, fondée par Antoine Moreau dans les années 2000, qui permet beaucoup de choses, donc de procéder à la copie, à la diffusion et à la transformation comme à l'exploitation à titre gratuit ou onéreux d'une œuvre. Donc ça, c'est une espèce d'adaptation de la licence GPL dans le monde de l'art, parce que le GPL, c'était quand même dans un contexte informatique, donc il y avait des différences avec le monde de l'art, donc c'est une transposition dans ce domaine-là, et valable en droit français. Donc ça, c'est intéressant également. Comment on fait ? Ben, on les indique. Donc là, je reviens à mes exemples du tout départ. Pour ma thèse, donc, au dos est indiqué la licence libre Creative Commons by NCSA, donc usage non commercial. Donc c'est indiqué très clairement pour les textes, parce que les images, forcément, je ne pouvais pas les placer sous licence libre, étant donné qu'en majorité, elles ne m'appartiennent pas. En tout cas, tous les textes sont placés sous cette licence-là. Idem sur mon site perso, donc chaque article c'est indiqué, donc là en l'occurrence c'est le propos n'est pas sans rapport, mais l'article est placé sous licence by SA, donc y compris usage commercial possible. Ça manifeste qu'on écrit avec des collègues sur la publication buissonnière, donc de sortir de ce modèle pervers des revues payantes et d'aller sur des sites plus courts. Parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que quand vous écrivez un article qui est publié 2 ans après, ce qui n'est pas un délai hallucinant dans le monde de la recherche, votre pensée elle évolue, le monde il évolue. Donc ça peut devenir en partie caduque, ce qui est aussi un vrai problème au niveau intellectuel. Donc on a essayé de repenser ça. Ça c'est mon livre, donc il a été placé sous licence by NCSA avec un embargo d'un an. Donc pendant un an, il est sous copyright normal. Donc ça c'est possible aussi, hein, d'avoir une granularité temporelle au niveau des licences. Ouais. Les textes, voilà, ils sont placés sous licence by NCSA au bout d'un an. Donc ils seront pas seulement placés sous cette licence libre, ils sont aussi mis à disposition sous une forme numérique sur un site web dédié. Il ne s'agit pas non plus de placer sous licence libre, si personne n'y a accès, ça ne marche pas trop. Idem pour la rue Back Office, alors on a un petit peu pris de retard, il faut qu'on le libère, mais bon, en tout cas, les textes commandés sont placés sous cette licence la même, hein, by NCSA, et on va, pour l'instant, ils sont sous accès payant, mais on va libérer l'accès pour que n'importe qui puisse les lire. Mais ce qui veut dire qu'on peut aussi les redistribuer, ce n'est pas juste un droit de lecture. Donc important d'indiquer les licences. Si vous n'indiquez pas les licences sur vos travaux, ben, ils se placent sous le régime par défaut en droit français du droit d'auteur, donc du copyright restrictif qu'a expliqué Eric. Autre proposition pour sortir de ces modèles pervers, d'utiliser des méthodologies de la culture libre, donc travailler en collaboratif, versionner, donc ça veut dire créer des versions temporellement archivées de son travail et permettre aux personnes consulte vos travaux, d'accéder à ces différentes strates temporelles pour remonter dans le processus de conception et pouvoir, pourquoi pas, s'en saisir pour proposer des alternatives, ce qu'on appelle des forks. Voilà, un exemple de réutilisation de contenu libre, donc ce journal Code X, conçu par Julie Blanc, donc c'est qui se constitue uniquement de textes libres de droit. Et l'éditeur, en l'occurrence X, alors là, on n'a pas eu besoin de demander aux auteurs l'autorisation parce qu'ils étaient directement placés sous licence libre. Ça, c'est une chose assez intéressante. Plus l'usage de leur caractère, je ne sais pas, mais en tout cas de langage standard web qui sont également, eux, libres de droit. Autre exemple, donc là, c'est clairement du domaine public, ce n'est pas des Creative Commons. Cet ouvrage dirigé par Nicolas Taffin qui viendra parler cette semaine, Page Publique, qui est un ouvrage qui est vendu chez CF Éditions, sa maison d'édition, mais qui se compose uniquement de textes du domaine public et de commentaires de ces textes-là, qui sont eux-mêmes commentaires, directement placés sous le domaine public. Voilà, autre proposition, donc toujours un petit peu dans cette idée méthodologie, de documenter, de contribuer, de débugger et de partager. Donc ça, c'est pour décomplexer un petit peu l'approche et de se dire que les logiciels libres, c'est pas qu'une affaire de geek avec des guillemets ou de développeurs informatiques, ça va beaucoup plus loin, et qu'il y a plein de façons de contribuer aux logiciels libres qui ne passent pas par du développement informatique. Donc là, concrètement, plus c'est dans la salle, Louis Veillard qui parlera de ce projet-là, j'imagine, et Kali Studio, qui est une timeline de documentation d'événements. Bah, alors moi, je ne suis pas capable, enfin, en tout cas, je n'ai pas pris le temps de me plonger dans le code, et je ne suis pas capable pour proposer un debug technique, mais on peut proposer des fonctions, des bugs, voilà. Donc là, c'est le code source étant placé sur GitHub, il y a un petit onglet qui s'appelle Issues, donc là, c'est problème. En l'occurrence, moi, c'était plus une proposition d'enrichissement, donc n'importe qui peut proposer des enrichissements, qui sont après acceptés ou pas en fonction du temps, évidemment, des concepteurs. Mais ça, c'est une façon de contribuer au libre sans passer par du code, qui est à la portée de tout le monde. On peut aussi du coup faire connaître, et ça c'est encore peut-être plus simple, tout simplement faire connaître les projets et la culture du libre. Bah, alors ça tombe bien, c'est bien cette semaine à Amiens. Donc deux exemples peut-être. Ça c'est un ouvrage collectif qui est placé sous licence libre directement Creative Commons, NCSA, mais qui était quand même commercialisé, c'était aussi en accès libre en ligne. C'est un ouvrage qui est assez drôle, qui part d'une fonction informatique sur un Commodore 64, une fonction écrite en basique. Et donc c'est un ensemble d'articles placés sous licence libre qui viennent commenter cette culture informatique. Donc il y a une cohérence en tout cas entre le propos éditorial du livre et la licence sous laquelle il est proposé au lecteur. C'est 2012. Autre exemple, là on est plus sur une idée d'annuaire. Donc ça c'est Raphaël Bastide, qui est graphiste et artiste, qui donc a créé alors un système de gestion de contenu, un CMS qui s'appelle Usable, qui permet de lister très facilement des logiciels et qui met en pratique dans des workshops. Donc il a mené un premier workshop au Havre, où il a développé ce système-là, et il l'a rejoué au lycée Jacques Prévert à Boulogne il y a très peu de temps. Et du coup, pendant une semaine, les étudiants donc, de BTS ont pu lister des logiciels et outils libres et donc proposer une espèce de base de données contributive de ces logiciels dans le domaine de la création, de façon très simple. Et au niveau des polices, mais bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus vu qu'il y a deux conférences après, toujours dans cette idée de rassembler, de faire connaître, un gestionnaire de contenu pour police, pas forcément libre de droit, mais en l'occurrence là, c'est le cas, qui s'appelle Use and Modify, que n'importe qui peut installer sur son serveur et qui permet de lister des polices de caractère de façon préférentielle libre de droit, si on peut quand même avoir des problèmes si elles sont partagées, et de les commenter, de les taguer, donc de se faire son petit annuaire de police et de le faire connaître auprès de qui on veut. Et donc ça peut facilement être détourné ou réadapté pour faire des fonderies d'école, comme ce qu'il a proposé pour les Beaux-Arts de Rennes, une fonderie d'école, donc le code source, j'imagine, est libre de droit du site de la fonderie. Après les polices, là ça dépend après de chaque étudiant au niveau de l'école. Je crois qu'on fait erreur. Voilà, donc ce sera ma conclusion. Donc après ces cas pratiques, il me semble qu'il faut aussi repenser notre rapport à la création, c'est ce que disait aussi peut-être Eric en substance. Donc de sortir de cette idéalisation de l'auteur comme force créative et individuelle, il est temps de sortir de ça. Donc j'avais trouvé cette citation qui était intéressante. L'industrie veut que nous devenions des machines à créer. Nous ne serons jamais assez nombreux à tomber pour satisfaire ses appétits. Réfléchissons au feu qui brûle en nous et en quoi il nous rapproche de nos voisins. Cherchons à capturer ces feux dans un temps qui échapperait à la chronologie des réseaux sociaux, des silos, des technologies asservissantes. Aucun humain ne peut les nourrir longtemps. Ce système de sélection par le sentiment d'échec est destructeur. Il mène à la copie sans imagination, à l'épuisement des ressources imaginaires et à celui des artistes. Voilà, je crois que ça intéresse. Merci. Vous avez bien pour mes slides, ils sont déjà en ligne à l'adresse URL indiquée.
Merci, Anthony. Alors, est-ce que nous avons des questions?
Ah oui, la présentation était conçue avec un système libre de droit, Siri, VGS, c'est le moment d'en parler. C'est pas du PowerPoint, hein, c'est un framework JavaScript HTML.
Est-ce qu'il y a des questions?
Mac à micro.
Oui, je te redonnerai. Bah, un grand merci, Anthony. Effectivement, je pense, et en tout cas de ce que j'ai vu, c'est que c'était assez complémentaire nos deux présentations. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette figure de l'entrepreneur ou de start-upper. Elle, c'est quelque chose. En France, je pense que, pas tous les Français, mais on est un peu vigilant pour ça. On arrive à dire ah, mais. C'est là où on met les mots qui viennent de l'entreprise et tout ça. Et je pense que c'est bien de se méfier de ça. Mais il y a quelque chose de très intéressant avec cette figure de start-upper, parce que quelque part, cette figure de start-upper reprend des codes justement de cette idéologie de l'artiste. Parce que le start-upper va faire des choses parce que cette start-upper ne veut pas être dans le gris dans un boulot, genre normal, CDI ennuyeux, non. Le start-upper sent la créativité brûler en soi Eva pour son pour avec ça va elle veut disrupter le monde. Il y a tout un vocabulaire et un truc qui rend en fait une figure un peu romantique de le start-upper, mais d'une manière qui est en fait fort semblable au, à la figure de l'auteur. Et en fait, en général, dans le monde de l'art, on a des façons de travailler, des modes de travail assez précaires, assez mauvais. Et c'est simple en fait que maintenant, tout le monde veut vivre comme des artistes dans un certain sens. Et je pense que c'est intéressant d'aller aussi dans l'autre sens et du coup de regarder, mais en fait, cette figure romantique de l'artiste, cette idéologie de l'auteur, c'est non seulement romantique et un peu dépassé, mais c'est aussi très libéral dans le sens qu'il n'y a pas un marché, je pense, qui a moins régularisé que le marché des droits d'auteur. C'est-à-dire, si toi tu veux, par exemple, si tu veux reproduire dans un article scientifique une image, et ça sera vraiment une logique d'offre et demande pure, parce que c'est-à-dire la personne qui a l'image peut demander tout ce qu'il veut, genre tout à fait sans se rendre compte si c'était... Bon, je pense qu'il y a parfois certaines exceptions pour le monde de la recherche, mais non. Quand tu commences à le publier en ligne, ça devient
assez...
Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, il y a en fait cette figure de l'auteur et le fait qu'il va avoir tout ce contrôle sur ce qu'il fait, c'est en fait quelque chose qui est très, en fait tu as touché dessus, hein. Mais je veux dire que c'est vraiment dans une logique d'offre et demande très extrême en fait. Et effectivement, tout ce que tu dis, ça amène aussi à repenser comment ça pourrait être cette marché de propriété intellectuelle, hein, comment il pourrait être plus rendu plus social, plus équitable. Et ce qui est très intéressant, ça va en tout cas en Belgique dans ce sens-là, c'est que parce qu'on considère que l'auteur est une bonne chose, par exemple, on n'arrive jamais à convaincre les socialistes que c'est une bonne chose de réformer les droits d'auteur. On n'a que... en fait, en Belgique, c'est plutôt les libéraux qu'on arrive à convaincre de ce genre de choses, parce qu'eux, ils voient aussi où ce système déborde. Mais du coup, il y a cette association par défaut avec l'auteur, parce que c'est bon, qui est assez dangereux.
Ouais, merci, je vais réagir pour ce que tu dis sur les start-upers. Après, dans mon essai « Design et métiers numériques », j'ai un chapitre qui s'appelle « L'injonction à l'innovation et à la créativité ». On voit que ces choses-là vont de pair et qu'on demande aux start-upers d'être créatifs, et même qu'on emploie aussi des créatifs en entreprise pour animer des séminaires. Voilà, c'est aussi tout le champ du design thinking qui va là-dedans. Ce que tu dis plus précisément sur les artistes, ça a été analysé de façon assez fine dans un ouvrage qui est déjà vieux des sociologues Poltanski et Schiapello. Ils appellent ça la fin de la critique artiste. L'artiste a porté historiquement évidemment un engagement politique assez fort, mais étant complètement aujourd'hui récupéré par notamment les entreprises, est-ce qu'une critique artiste est encore aujourd'hui possible? Les auteurs répondent non, selon eux non, donc c'est un constat d'échec. Peut-être du coup qu'on peut réinventer la figuratiste pour ne pas rester dans ce constat négatif, en tout cas il faut l'espérer. Sinon on est quand même mal barré. Et après sur les images, malheureusement, non, il n'existe pas d'exception pour la recherche. Alors quand on fait de l'enseignement, on est censé remplir des tableaux au niveau des droits d'image qui sont après négociés par les services juridiques de l'université auprès des ayants droit, mais il n'y a pas d'exception pédagogique ni des temps de recherche malgré chose qu'on pourrait penser spontanément.
Ça, on est en Belgique, heureusement.
En France, non. Et après, pour ce qui me concerne, dans back-office, qui est en plus une rue payante, donc ça se complique encore, concrètement, on a dû enlever des images parce que les ayants droit demandaient des prix totalement délirants. Des reproductions à 300€ l'image, on ne pouvait pas se le permettre. Donc, notamment, le numéro 1, on voulait mettre, je crois que c'était pour ton article d'ailleurs, une image de Jurassic Park, qu'on n'a pas pu reproduire parce que le studio demandait plusieurs centaines d'euros et qu'on ne pouvait pas. Donc, c'est dommage. Donc, la qualité, forcément, le lecteur ne la verra jamais. On n'a pas le droit de la reproduire. Et dans le numéro 2, il y a des reproductions du thème qu'on a dû enlever aussi. Oui.
Vous parliez au début de tout l'aspect politique, la dimension politique qui avait amené à ces choses délirantes au niveau des chercheurs, de pousser à écrire, etc. Et vous militez pour le livre, Olivier Tchad, vous nous avez parlé aussi, et plein d'autres. Mais est-ce que vous militez un peu tous individuellement, ou est-ce qu'on sort des consensus? Et est-ce que vous arrivez à travailler ensemble, à mettre en place des collectifs qui pourraient pas seulement...
Après, oui, on se connaît en échange. Après, au niveau du collectif, le problème, c'est qu'on fait face à des résistances énormes au niveau des instances académiques. Et tant qu'on n'est pas représenté dans ces instances-là, ça va être compliqué, quoi. On est une espèce de plafond de verre sur lequel on bute. Donc voilà, pour l'instant, les listes de revues, peut-être qu'un jour, on refusera de mettre dans ces listes de revues, on peut rêver, hein, des revues qui sont en accès payant. Bon, les choses bougent quand même un peu positivement. Il y a des bibliothèques universitaires qui refusent maintenant d'acheter ces abonnements-là. Donc peut-être qu'on va pouvoir y arriver par cette réponse financière. Mais il y a un problème de culture aussi, c'est que la culture que j'énonce, elle est malheureusement pas vraiment partagée au niveau des instances décisionnaires. Donc nous, on agit depuis la base, mais... Et encore, on va pas se mentir, on est quand même minoritaire, encore aujourd'hui. Dans les sciences dures, peut-être ça vient un peu plus, l'open access, dans le champ des mathématiques ou de la physique, il y a quand même des revues de référence à l'échelle mondiale qui n'imposent pas des conditions comme ça, encore que quand on voit la revue Nature, les copyrights sont vraiment terribles. Donc voilà, après le MIT a sorti une revue récemment autour du design et de l'intelligence artificielle qui est très intéressante parce que les articles sont versionnés sur GitHub, y compris la partie iconographique, on va vérifier. Voilà, mais sur le champ français, j'aurais pu montrer des revues où les copyrights sont, c'est sous licence libre. Mais ça, c'est pas les revues qui sont les plus importantes dans les CV, malheureusement. Donc on peut publier là-dedans, mais la recherche. Olivier Hirschfeld a publié un article qui disait pourquoi je n'écrirai plus jamais dans des revues scientifiques. Parce qu'on en est là, mais lui, il est déjà en poste, donc c'est facile. Mais quand vous êtes un jeune chercheur, c'est facile à voir. Mais en tout cas, c'est plus facile que si vous voulez chercher un poste. Si vous arrivez avec ce discours-là et que entretien de recrutement, vous êtes mort. Là, c'est clair et net. Donc, voilà, donc si, du coup, il y a un double discours un peu hypocrite où d'un côté, on va je m'inclus là-dedans, on va militer pour ces valeurs-là et d'un côté, si on joue pas ce jeu-là, on ne progresse pas. Et si on ne progresse pas, ces idées-là ne peuvent pas être entendues. Parce qu'on ne sera plus à des échelles où on peut les représenter correctement. Donc, on est pris dans ce paradoxe-là. Si vous militez trop, vous allez vous exclure des personnes qui pourront vous entendre. Oui, une question derrière.
Tu nous parles en fait la recherche en art et en design, c'est problématique du commanditaire. Et souvent, c'est positif d'avoir un commanditaire pour écouter le design. Mais du coup, dans les contrats, souvent, dans les universités, on n'a pas le droit de travailler en dehors de nos contrats. Donc, ça pose un réel problème pour le design. Est-ce que le livre ne serait pas une réponse à ça? Mais en même temps, on peut aussi travailler dans le livre et être payé pour ce qu'on fait pour le livre. Donc peut-être que ça n'est pas une conversation.
Bon, après, on peut le faire de façon pirate, je l'ai fait. On peut aussi s'arranger avec les contrats et prendre un peu de souplesse. Donc ça, c'est une première réponse. Les risques sont un petit peu limités. Ça s'est quand même assoupli au niveau universitaire, au niveau des cumuls, parce que le point d'indice des fonctionnaires étant gelé depuis pas mal d'années, l'État petit à petit assouplit les règles de cumul pour permettre à ses agents de compléter leur salaire que lui-même refuse à leur verser. Bon, c'est... bon voilà, ça a au moins cette conséquence positive. Ouais, mais on en revient du coup à faire peser la responsabilité de sa vie sur l'individu et d'empêcher une prise de conscience collective. Après, la question, c'était au niveau du commanditaire et des contrats. Ça peut aussi se négocier, ce que disait Eric. La connaissance de ces licences et de ce fonctionnement, ça aide aussi à négocier auprès des éditeurs, etc. Moi, dans certains cas, j'ai demandé, c'était très facile d'ailleurs, ok, tu ne payes pas pour cet article de recherche, mais par contre, la condition, c'est que tu sois sous licence libre immédiatement. Les personnes ont du mal à s'y opposer parce que quand elles ne veulent pas payer. Donc ça, c'est, voilà, pour certains types de revues, moins cotées. Après, dans le champ de l'art et du design, c'est heureusement pas le cas pour l'instant, mais dans les sciences dures, ça s'appelle le H-factor, donc le facteur d'impact, qui classe les revues, et plus vous êtes dans des revues classées, plus ça fait gagner des points, et ça fait monter votre carrière. Pour l'instant, c'est pas le cas, heureusement, dans l'art et dans le design. Mais voilà, donc les revues...
C'est bien, en effet, un monde d'art et design, sauf que c'est pas, il n'y a pas de chiffres. Mais évidemment, si tu vas monter un truc au Centre Pompidou, ça marche mieux si tu vas montrer un truc à quelque part d'autre.
Oui, bien sûr. En tout cas, ces revues à fort facteur d'impact sont la plupart du temps privatives ou captent les articles des chercheurs. Donc si vous refusez de publier là-dedans, vous êtes un peu bloqué et vis-à-vis de ce genre d'éditeur, vous ne pouvez pas négocier. Contre Elsevier ou Springer, à la chaîne individuelle, vous ne pouvez pas grand-chose. Là, les réponses pourraient être collectives. Donc, ça rejoint la question d'avant. Oui ?
À partir de quand on bascule sur un outil libre ? Par exemple, là, c'est des livres, et Keynote, le blog qui n'est pas libre, mais sur macOS, c'est pas sur Linux,
C'est la licence qui répond à votre question, je pense. Est-ce que la licence est libre ou pas ? Est-ce qu'elle respecte les conditions énoncées par Stallman ? Au moins une des quatre ?
Le choix d'outils. Le choix d'outils. Le magazine est fait
Ouais, c'est une bonne question. Bah, après, c'est des questions pragmatiques. Aujourd'hui, les solutions web to print, ça va évoluer, j'imagine. Mais ne permet pas d'avoir une finesse de mise en page qui était satisfaisante pour ce qu'on voulait obtenir. Donc, on était sur une design. Faute d'alternatives pour l'instant. On regarde ce qui se fait à côté. Et après, au niveau du site web, c'est Kirby. Donc, c'est un CMS statique qui n'est pas libre, mais la licence permet de tout modifier de façon très souple. Donc, ça nous convenait. On l'a choisi parce que la documentation était meilleure que les autres CMS statiques libres de droit. Après, c'est aussi une question pragmatique. Il faut d'un produire des objets, donc il faut arbitrer au cas par cas.
Bon, c'est un choix aussi. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment très. Qui cherchent la pureté là-dedans et qui sont à 100%, qui font tout sur Linux, qui font tous libre. Et je pense. Mais. Je pense que ça, c'est super bien. Le seul danger, ce sera du coup d'en vouloir aux autres qu'ils font un truc, par exemple, qui genre, si tu fais un dessin en Illustrator et tu le mets en licence libre, c'est déjà plus cool que si tu fais un dessin en Illustrator et tu le mets dans une licence privative, il y a un truc comme ça où c'est juste, je pense, c'est bien de ne pas juger dans ce sens, là, mais c'est tout à fait cool. Mais à la fois, c'est tout à fait possible de justement se prendre au but de faire tout en libre, mais
c'est une question pragmatique. Après, l'économie de projet, qu'on peut pas. Voilà. Et après, chacun fixe le curseur où il veut, mais déjà de se poser la question, c'est déjà une étape énorme, me semble-t-il. Oui ?
Ce qu'on peut dire, ouais, c'est que le choix du libre, il est vraiment cas par cas. Et par exemple, il y a des milieux comme la 3D où Blender est hyper concurrentiel et utilisé par des professionnels, pas parce qu'il est libre, mais juste parce que c'est un super logiciel qui concurrence le logiciel de 3D. Et du coup, dans ce cas-là, le choix se fait parce que Blender est un super outil. Pour la publication, pour l'instant, c'est plus compliqué. Pour le dessin typo, il y a des outils, mais les outils propriétaires sont plus efficaces. On fait ça à la sauce.
Ce qui est plus, en plus, je l'ai testé lors d'un workshop Helvetine. Bon, bah voilà, j'ai pu tester deux jours sur un week-end. J'ai pu constater que c'était aujourd'hui encore trop rigide pour que je puisse en servir dans le cadre de cette revue. Voilà, fin de la discussion. Après, ça évolue, bah, je reviens à ma position. Voilà, on teste, on essaye et puis on fait des choix. Il ne s'agit pas d'être extrémiste dans un sens ou dans l'autre.
Il faut mieux être extrémiste dans un sens
oui.
Que dans l'autre.
Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, de ne pas juger si on travaille à 100% du logiciel libre, les personnes qui vont être entre les deux. Quoi. C'est déjà une première étape qui est intéressante. Donc c'est pas non plus pareil de travailler pour un théâtre culturel en Belgique ou pour d'autres types de clients. Mais c'est des clients qui permettent aussi certaines choses que ne permettent pas d'autres clients, me semble-t-il. Après, on peut aussi dire qu'on les choisit, mais il faut voir. C'est bon ?
On va être là ?
Oui. Merci.